Parcours sur Radio Orient avec Loïc Barrière.
Parcours reçoit l'écrivain et médecin Jamil Rahmani. Bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
Qui êtes-vous, Jamil Rahmani?
Bah écoutez, je suis médecin. Je suis né à Alger, il y a quelques décennies. J'ai vécu à Alger jusqu'à 24 ans. Je suis venu en France faire une spécialité d'anesthésie. Je suis resté en France 5 ans. Je suis retourné en Algérie pour faire mon service militaire et pour pratiquer ce que j'avais appris. Mais je suis revenu en 87 de façon quasi définitive. Enfin, je suis depuis 87, je vis à Paris et je suis chef de service d'anesthésie dans deux hôpitaux de la banlieue parisienne, Levallois et Neuilly-sur-Seine.
Vous êtes né à Alger. Dans quel quartier avez-vous grandi ?
Je suis né en pleine ville dite européenne, le quartier du Telemli, qui est un quartier sur les hauteurs d'Alger, où on voit la ville et la mer. De mon immeuble, j'habitais dans un immeuble, et nous étions au 10e étage. On embrassait toute la baie d'Alger, on a une vue absolument à couper le souffle, avec cette baie en cercle parfait, et au loin les montagnes de l'Atlas, et plus au loin encore les montagnes du Djurdjura enneigées l'hiver.
C'était un quartier où vivaient principalement des Européens, comme on disait à l'époque.
Quasi exclusivement. Dans l'immeuble dans lequel nous étions les seuls musulmans. C'était le foyer universitaire algérois qui regroupait des instituteurs, des professeurs d'université, des professeurs de lycée. Et mon père était directeur d'école et nous étions les seuls Algériens.
Vous nous avez brossé le panorama, on a l'impression, de votre balcon à Alger. Qu'est-ce qu'il y avait en bas, dans la rue? Qu'est-ce que vous avez vu à hauteur d'enfant?
À hauteur d'enfant, mais quand j'étais petit, au travers du grillage, parce que le balcon était grillagé pour éviter que je ne passe par-dessus bord, ben je voyais des collines vertes, des morceaux d'immeubles. Et quand ma mère me prenait, ou mon père me prenait dans leurs bras, eh bien je voyais cette ville magnifique qui dévalait vers la mer, un camaïeu de blanc qui dévalait vers la mer, une mer bleue, un ciel tout aussi bleu.
Vous avez de nombreux souvenirs de plages,
oui,
en Algérie?
Oui. Ah oui, bien sûr, parce que bon, l'Algérie, je vous dis, j'y ai vécu jusqu'à 30 ans, avec un intermède parisien de 5 ans, mais bien évidemment, tous les étés, nous allions à la plage.
Où ça, exactement?
On allait à Moretti. Moretti, c'est une plage qui est à 25 km d'Alger, où il y avait des dunes, où il y avait du maquis, à une plage de sable de sable doré, magnifique plage. Et un peu plus loin, il y avait le Club des Pins, auquel nous n'avions pas accès parce que cette plage du Club des Pins était réservée aux très grands colons qui avaient là des maisons d'été magnifiques. Alors nous y avons eu accès après l'indépendance. Et maintenant, nous n'y avons plus accès parce que c'est devenu la résidence des apparatchiks.
Dans votre livre coécrit avec Michel Canesi, Bien portant avec la médecine du prophète, aux éditions Jean-Claude Lattès, vous évoquez aussi les parfums de votre enfance. Et j'ai été très sensible à ce que vous écrivez sur le jasmin. Ce sont des parfums que l'on recherche toute sa vie quand on les a connus enfant.
Le parfum du jasmin, parce que ma mère avait la passion des plantes et sur notre balcon, elle avait planté un effilier. Un effilier qui donnait des nèfles et que j'attendais avec impatience et aussi un jasmin. Et les soirs d'été, Les soirs de chaleur, il y avait cette odeur qui rentrait dans l'appartement.
Vous vous rappelez particulièrement, dans votre enfance, le moment où vous étiez encore admis dans l'univers des femmes ?
Ah oui, oui, bah, tout à fait. J'ai été admis bah, jusqu'au début de la puberté. C'est-à-dire que du jour au lendemain, dès l'instant où on a vu une moustache au-dessus de mes lèvres, eh bien, j'ai été jeté du milieu des femmes. C'est-à-dire que quand vous êtes enfant, en Algérie, vous ne vivez pas avec votre père. Vous vivez avec votre mère, vos tantes, vos cousines, vos sœurs, vos petits cousins. Et vous vivez dans un gynécée. Et c'est une ambiance très joyeuse, très festive, où les femmes devisent en permanence, plaisantes, parlent de façon à demi-mot de sexualité. Et la nuit, notamment lors des mariages, des fêtes, dans les chambres, on mettait des matelas et puis tout le monde dormait, femmes, enfants, tout le monde dormait ensemble. Et on était bercés par les ragots de nos mères, de nos tantes. Et parfois, une tante prenait une derbouka et se mettait à chanter, à jouer. Et c'était beaucoup plus intéressant que l'univers des hommes. L'univers des hommes était sinistre. C'est un univers gris-souris où on parlait de télévision, de football, de voitures. Et moi, ça m'intéressait pas du tout.
Le monde des femmes, c'était le monde de l'imagination, de la création.
C'était le monde de la chaleur, de la sensualité. C'était un paradis perdu.
Que faisaient vos parents, Jamil Rahmani ?
Mon père était directeur d'école et ma mère ne travaillait pas. Ma mère était femme au foyer et mon père était directeur d'école sur les hauteurs d'Alger, d'une école à la Bouzaria.
Vous avez appris le français très tôt ?
C'est ma langue maternelle parce que mon père, c'est la langue maternelle de mes sœurs aussi, mon père voulait que nous jouions à armes égales, c'était la colonisation, moi je suis né à la fin de la colonisation, voulait que nous jouions à armes égales avec les Français de souche, et donc nous avons appris à parler français sans accent, même pas l'accent pied-noir.
Alors justement, vous parlez de la colonisation, quels souvenirs en gardez-vous ?
Des souvenirs extrêmement précis, des souvenirs de manifestations, des souvenirs de concerts de casseroles, l'Algérie française. Vous savez, on était donc en milieu européen, et les dernières années ont été pour les pieds-noirs des années de désespoir, et ils exprimaient leur désespoir comme ils le pouvaient, et souvent de façon assez sonore et dérisoire. Les concerts de casseroles, l'OS donnait des mots d'ordre et tout, pendant une heure, deux heures, on tapait sur des marmites, des lessiveuses, des poêles, Algérie française. Et je me souviens aussi de grandes manifestations pour l'Algérie française, de drapeaux OS qui, le matin, ornaient tous les immeubles du quartier, d'une ambiance très, très lourde. Mais je me souviens aussi de jolies choses. Hein. Noël à Alger, les Pères Noël dans les rues, les décorations. Il y avait notamment une confiserie rue d'Isly qu'on appelait la confiserie royale, où il y avait les rois mages, la Sainte Vierge et Joseph... qui tournait, il y avait une crèche tournante qui montrait tous les personnages.
Vous nous avez parlé tout à l'heure du club des pins qui vous était interdit parce que...
C'était réservé aux riches, aux riches colons.
Vous sentiez le poids de la colonisation pour l'Algérien musulman que vous étiez ?
Oui, tout à fait.
Le mépris ?
Tout à fait, oui, tout à fait. À l'école, hein. À l'école, je me suis fait traiter de sale melon, de sale arabe. Oui, il y avait réellement, surtout les dernières années, hein, enfin les 3-4 dernières années, où il y a eu une crispation des communautés, où il y a eu des crimes des deux côtés. Hein. Il y a eu des attentats, les attentats du FLN qui ont dressé la population française contre la population musulmane. Et à la fin, les musulmans n'avaient pas le droit de rentrer dans la ville européenne. Hein. Les gens de l'OS disaient « abattez femmes comme hommes dans les rues si l'interdiction était pas... » Aussi, les Algériens passaient outre à l'interdiction.
Vos parents ont eu peur à ce moment-là ?
Oui, oui, bien sûr. Le jour, je le décris dans un livre à venir, il y avait l'annexe de la faculté de droit dans notre immeuble. Et c'était en avril, au mois d'avril, aux alentours du 11-12 avril. Et l'OS a mis une bombe dans la faculté, de droit, parce que c'était la politique de la terre brûlée. L'OS avait compris que c'était fini, le cessez-le-feu avait été signé, et ils ont décidé de détruire tout ce que la France avait fait. Et je ne sais pas si vous avez le souvenir de la bibliothèque de l'Université d'Alger, la plus riche d'Afrique, qui a été... ils ont mis des bombes incendiaires. Et c'était épouvantable, cette bibliothèque a brûlé. Imaginez ce que les Parisiens, les Français ressentent aujourd'hui après l'incendie de Notre-Dame. Eh bien, les Algériens, musulmans comme Européens, ont vu brûler la culture.
Comment on se construit dans un pays en guerre quand on est enfant ? Car finalement, quand on est enfant, on est dans le rêve, on est dans le jeu. Et puis, la réalité s'impose à vous aussi, Jamila.
Oui, mais c'était un peu ouaté, parce qu'il y avait la famille, il y avait les sœurs, les parents qui faisaient une muraille protectrice. Donc oui, les bombes explosaient, on les voyait même exploser. Mais néanmoins, il y avait cette chaleur familiale. Et puis, il y avait aussi l'islam. L'islam qui a aidé la communauté algérienne à résister et à faire front.
Dans quelle mesure, Jamila
Khamenei ? Dans la mesure de l'espoir, de se dire que Dieu était avec nous, Dieu allait nous aider, que nous allions avoir cette indépendance tellement souhaitée. Dans cette mesure, la religion a été une aide considérable.
Vous avez un souvenir précis de l'indépendance ?
Oui, complètement. Oui, complètement. Je le dis dans ce livre bien portant avec la médecine
du prophète,
et je le dis dans le livre à venir. J'ai des souvenirs extrêmement précis. C'était à Constantine, puisque vous me disiez est-ce que vos parents avaient peur ? Oui, tellement peur qu'au lendemain de l'attentat. De l'annexe de la fac de droit, nous avons pris la voiture le lendemain, nous sommes partis à Constantine, nous sommes réfugiés dans la ville arabe, dans la ville musulmane de Constantine, à l'abri de l'OAS et de ses exactions. Et c'est à Constantine, donc, que j'ai vécu l'indépendance. Mais je me souviens, dans notre famille, il y avait des femmes qui étaient illettrées. Et à la veille de l'indépendance, on montrait les papiers qu'il fallait glisser dans l'urne avec oui, non. On disait à nos tantes et à nos cousines, surtout, tu mets pas le oui. Hein. Enfin, tu mets pas le oui qui dit que on veut rester dans la communauté française. Tu mets le papier qui demande l'indépendance. Et quand l'indépendance a été proclamée, hein, le 3 juillet par De Gaulle, les foules sont sorties dans la rue pour crier leur joie. Et moi, je suis sorti aussi avec mes sœurs, mes cousines, et on a défilé. Moi, j'étais habillé dans un drapeau algérien que ma tante avait confectionné. Et puis, on criait du matin jusqu'au soir, « Vive l'Algérie, le colonialisme est mort, gloire aux martyrs. » Et sans arrêt, on a tourné dans la ville. Et c'était un moment de grande fraternité, de grande communion, à l'image de ce qui se passe en ce moment en Algérie, où vous avez des foules immenses qui sortent dans la rue pour dire que ça suffit. Et là, les mêmes foules, quand je vois ces images, ça me rappelle exactement les images de l'indépendance algérienne.
Ce que vous gardez notamment, Jamil Rahmani, c'est ce sentiment de communion oui. et de fraternité.
Oui, 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 complètement. Nous étions tous pareils. Il n'y avait pas de différence de classe. Il y avait, nous étions frères, réellement frères et sœurs.
Alors, les débuts de l'indépendance, on se rappelle que l'Algérie était considérée comme la capitale des révolutionnaires. Il y avait une effervescence en Algérie. Le pays était connu internationalement. Che Guevara est venu à Alger.
Oui, Che Guevara est venu à Alger. Dans Alger sans Mozart, d'ailleurs, il y a un épisode où je mets en scène Che Guevara. Et mon père a connu Che Guevara. Moi, j'ai vu Castro. Parce que toutes les personnalités phares du tiers-monde sont venues en Algérie. Moi, j'ai vu Ceausescu. J'ai vu Castro défiler. Je me souviens, les enfants, donc, on avait réquisitionné les enfants des écoles pour faire une haie d'honneur à Castro, mais il n'en avait pas besoin, parce que les gens, spontanément, sont descendus dans la rue et lui ont fait un triomphe. Et les enfants qui ne savaient pas qui était Castro, bien sûr, parce qu'à 8 ans, comment voulez-vous connaître Castro? On leur avait dit, il faut que vous disiez « Vive Castro, vive Castro !» Et Castro, ils savaient, ça ne disait rien pour eux. Ils disaient « Vive Casse-croûte !»« Tahia Casse-croûte !» C'était très drôle. On a vu Podgorny passer, enfin des Russes. Chuenlai est venu. C'était la Mecque. C'était la Mecque des révolutionnaires. Et moi-même, j'ai côtoyé Carmichael, qui était le chef des Black Panthers, qui pendant le festival panafricain, qui a été une merveille à Alger, une merveille de festival. J'étais guide et au Saint-Georges, je côtoyais tous les jours Myriam Makeba, qui venait d'avoir un enfant de Carmichael.
Vous étiez plein d'idéalisme à ce moment-là en tant qu'étudiant.
Moi, j'étais lycéen. Hein, au lendemain de l'indépendance, j'étais lycéen. On avait beaucoup d'espérance. On imaginait que l'Algérie serait le premier pays du monde.
Et la ville d'Alger que vous décrivez magnifiquement dans Alger sans Mozart, la ville s'est transformée après l'indépendance?
Bah, complètement, oui. Oui. Enfin, de façon, par touche, bien sûr. Alger, c'était une ville métisse, mais c'était une ville aussi française, à l'image de Lyon ou de Paris. Vous avez, sur les bords de la Méditerranée, la rue de Rivoli. Le front de mer à Alger, c'est un front de mer avec arcades. Je ne sais pas si vous connaissez Alger, si vous avez été à Alger.
J'ai eu la chance d'y aller deux fois.
Vous voyez le front de mer. Eh bien, au lieu d'avoir les Tuileries, vous avez la Méditerranée. Vous avez des immeubles haussmanniens qui sont absolument magnifiques. Et ces immeubles haussmanniens qui s'étaient dégradés au fil des années, ont été réhabilités. Donc, au centre-ville, vous retrouvez intacts les immeubles haussmannien des débuts de la colonisation, et c'est absolument magnifique. Alger, c'est une ville splendide, c'est une ville superbe, avec un mélange d'architecture mauresque, de villa mauresque, d'architecture coloniale, française. C'est, je le dis dans un de mes bouquins, c'est la sublime porte entamant un pas de deux avec Napoléon III.
Parcours reçoit l'écrivain et médecin Jamil Rahmani. On se retrouve dans quelques instants.
Parcours sur Radio Orient avec Loïc Barrière.
Au Retour sur le plateau de Parcours. Nous sommes toujours en compagnie de Jamil Rahmani, écrivain, médecin. Vous avez récemment publié « Bien portant avec la médecine du prophète » aux éditions Jean-Claude Lattès. Il y a eu d'autres livres, « Villa Taylor », auparavant « Alger sans Mozart », des livres qui sont disponibles désormais en format de poche. Alors, il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé, mais qui est évoqué dans « Bien portant avec la médecine du prophète », c'est votre grand-mère. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été son rôle dans votre enfance ?
Elle m'a transmis la tradition. C'était un personnage très, très, très fort. Mon grand-père était un parfait produit de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il possédait parfaitement toutes les cultures de l'Algérie. La culture berbère, la culture arabe et la culture française. Il parlait et s'exprimait parfaitement dans les quatre langues du pays. Parce qu'il y a l'arabe qu'on dit dialectal à tort, qui est une langue à part entière, le français, l'arabe littéraire, l'arabe du Coran, et le berbère. Et ma grand-mère a nourri une frustration épouvantable à l'égard de mon grand-père. Elle lui en a voulu toute sa vie de l'avoir laissé dans l'inculture et de ne pas lui avoir, alors qu'il était enseignant, que c'était un transmetteur de savoir, il n'a jamais voulu apprendre à ma grand-mère à compter ni à lire. Il lui disait, bon macho, il lui disait, mais pourquoi veux-tu que je t'apprenne à lire comme ça? Tu vas aller regarder dans mes papiers? Tu vas aller fouiller dans mes comptes? Hors de question. Et il lui en a voulu toute sa vie. Et ça a été vraiment, c'est une femme très très intelligente. Beaucoup d'humour, elle parlait comme beaucoup de personnes d'Afrique du Nord par adage, par proverbe. C'est elle, par exemple, qui m'a dit « Mais tu dois pas boire à l'eau du robinet, t'imagines, s'il y a une sangsue dans les canalisations, elle va s'agripper à ta gorge et ça me terrorisait. » Ce qui m'a décidé à écrire « Bien portant avec la médecine du prophète ». Parce que quand j'ai lu « La médecine du prophète » d'Asuyuti, j'ai vu que le prophète avait dit qu'il ne fallait surtout pas boire dans des récipients opaques parce qu'une sangsue aurait pu se dissimuler dans le récipient et on pourrait l'avaler.
Et là, vous avez pensé à votre grand-mère.
J'ai pensé à ma grand-mère et je me suis dit, c'est fou ça. Je ne savais pas à quel point l'islam, les hadiths, avait imprégné ma vie par le biais de ma grand-mère et de ma mère et de mes tantes.
C'est une personne aussi qui vous a transmis l'histoire de votre famille ?
Oui. Oui. Ce qu'elle racontait était extraordinaire. Hein. Elle s'est mariée à 9 ans. Elle s'est mariée à 9 ans et elle m'a raconté ses noces. Elle était en train de jouer à la poupée. On lui a enlevé sa poupée, on l'a habillée et il y a eu la fête, mais elle ne savait pas ce qui se passait. Elle a 9 ans, vous imaginez. Et on l'a emmenée. On l'a emmenée chez son mari. Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré des heures et des heures. Et pour la réconforter, son beau-père l'a prise sur ses genoux et a joué avec elle. Elle raconte sa belle-mère, avec laquelle elle ne s'entendait absolument pas. Elle se disputait, c'était des disputes homériques. Et mon grand-père ne s'embarrassait pas. Quand elle lui cassait trop les oreilles, il battait sa mère et sa femme. C'était une période très très, très dure. Elle m'a raconté aussi que les femmes n'avaient pas accès au monde extérieur. Un jour, de la rue, mon grand-père a vu sa fille, ma tante, derrière la fenêtre. Elle regardait le spectacle de la rue, elle faisait rien d'extraordinaire. Il est monté à pas de loup. Il est monté, il a vu effectivement que ma tante, sa fille, qui devait avoir 14 ans, regardait à l'extérieur. Et il a fermé la porte de la chambre à clé, il a enlevé sa ceinture, il l'a battue. À tel point que ma tante a perdu ses urines et que ma grand-mère avait peur qu'elle ne soit tuée par mon grand-père. Donc c'était une société très, très dure.
Votre père n'était pas très religieux, si
non.
j'ai bien compris.
Non,
C'est votre mère qui vous a permis de mieux connaître la religion musulmane.
Oui, mon père ne parlait jamais de religion. Alors, ça, jamais. Ma mère en parlait tout le temps. Elle me disait, il ne faut pas faire ci, il faut faire ça. Tu iras en enfer si tu mens. Et puis, deux jours après, elle me disait, si tu mens, tu vas avoir ton nez qui va grandir comme celui de Pinocchio. C'était un syncrétisme entre l'Orient et l'Occident. C'était amusant, mais elle m'a demandé ensuite, quand j'ai atteint l'âge adulte, de faire le ramadan. Elle a voulu m'apprendre à faire la prière. Mais bon, moi, j'étais pas un bon musulman.
Quels souvenirs gardez-vous du ramadan, des périodes de fêtes en Algérie durant votre enfance ?
Ce sont de très très beaux souvenirs, parce que le ramadan, c'est très très convivial. Et c'est ce qui fait la beauté du ramadan. C'est... L'attente, l'heure qui précède la rupture du jeûne, on est sur des starting blocks pour manger.
Avec le coup de canon.
Avec le coup de canon.
Il venait de quel
fort l'empereur. Du fort l'empereur, en Algérie, il venait du fort l'empereur. Le fort l'empereur, c'est sur les hauteurs d'Alger, on l'appelle en arabe Qsar Boulila, c'est le palais d'une seule nuit, parce que Charles Quint y a passé une nuit. Charles Quint a essayé de prendre Alger, ça s'est soldé par un désastre pour lui, parce que sa flotte a été détruite par une tempête, une énorme tempête, et il a été obligé de se replier sur l'Espagne en catastrophe, et il a passé une nuit dans ce fort. Donc ce fort, l'empereur domine Alger. Il y avait une tour qui a été détruite parce que trop visible pendant la Deuxième Guerre mondiale, et de là, de cet endroit, il y avait le coup de canon.
Jamil Rahmani, vous êtes l'auteur de plusieurs livres avec Michel Canesi. Vous étiez déjà amateur de livres quand vous viviez en Algérie. Vous aviez des auteurs de prédilection.
Ah oui, oui. Moi quand ma famille est universitaire. Hein. Mon père était directeur d'école. Mon grand-père a été professeur d'arabe, professeur de berbère. Il était professeur d'arabe au lycée de la Croix d'Alger. Et on a toujours vécu entouré de livres. Donc mes auteurs de prédilection, c'était très, très, très éclectique. J'ai pris le goût de la lecture avec Enid Blyton, avec le Club des Cinq. Parce que,
grand auteur jeunesse.
Grand auteur jeunesse, je devais avoir 6-7 ans. Donc le Club des Cinq, le Clan des Sept, je les ai tous lus. Et ça m'a donné le goût de la lecture. Et ensuite, j'ai lu Dumas, Victor Hugo... Sartre, j'avais lu tout ça à 16 ans, j'avais lu tout Sartre. J'ai lu Steinbeck, j'adorais Steinbeck, et puis plein d'autres.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir médecin, Jamil Rahmani ?
C'est plutôt une injonction paternelle, c'est depuis tout petit. Vous savez, les pères espèrent toujours se réaliser dans leur fils. Mon grand-père avait toujours rêvé d'être médecin. Il n'avait pas pu parce que ça demandait du temps et de l'argent et que mon grand-père n'était pas riche. Et donc, il m'avait dit depuis tout petit, plus tard, tu seras médecin. Pour la société musulmane, comme pour la société juive, sous le temps de la colonisation, il y avait trois professions qui étaient avocats. C'était avocat, architecte ou médecin ou dentiste. Voilà. Architecte, ça vient vraiment en tout dernier. Mais dentiste, médecin ou avocat, c'était ce qu'il fallait faire.
Et quels souvenirs gardez-vous de ces études de médecine en Algérie avant de venir en France ?
Ça a été mon contact, mon vrai contact avec le peuple. Vous savez, moi, j'ai longtemps vécu dans une bulle, hein, hors de la société algérienne. En milieu français jusqu'à 9 ans. À 9 ans, vers la fin de la colonisation Constantine, et là j'ai été plongé dans la ville de Constantine, et dans la vie musulmane. Et ça a été ma première rencontre, vraie rencontre, avec l'Algérie profonde. Et les études. Ensuite, je suis allé à la mission culturelle française au lycée, donc c'était. C'était pas la vraie Algérie, ça. C'était l'Algérie des enfants de coopérants, l'Algérie des enfants de pieds noirs qui étaient restés. Et ça n'est que pendant les études de médecine que je me suis confronté à...
En devenant interne et en soignant des gens
en
pauvres.
Soignant, et c'est là que j'ai appris à mieux parler l'arabe, parce que je ne le parlais pas très bien, je l'avais appris avec les femmes de ménage. Et là, je me suis rendu compte du fossé, de l'immense fossé qui séparait ma famille, enfin la société nantie, entre guillemets, on n'était pas très riche, mais on vivait tout à fait correctement, du peuple.
Est-ce que les maladies que vous avez eu à soigner en disaient long aussi sur ce qu'avait produit la colonisation ?
Vous savez, la colonisation, ça a été la ruine de l'Algérie. Quand les Turcs étaient en Algérie, il y avait des écoles, il y avait une structure sociale, il y avait une hiérarchie. La colonisation a brisé l'ordre ancien et a ruiné la population musulmane. On estime qu'en 1800, lors de la révolte de 1870, 70% du patrimoine des Algériens a été confisqué par les Français. Il y a eu des famines. On parle à la fin du 19e siècle de la clochardisation de la population algérienne. Quand l'indépendance est arrivée, il n'y avait pas de grosses richesses algériennes, il y en avait très peu. Il y avait les Tamzali, il y avait les Bengana, mais on les comptait sur les 10 doigts de la main. Il y avait, en tout et pour tout, 600 étudiants dans les facultés algériennes coloniales. 10 ans plus tard, il y en avait 100 000. L'indépendance a permis une redistribution des richesses et a permis une fantastique amélioration du niveau de vie. Ça, on ne le dit pas assez, là, on critique les pouvoirs. C'est vrai que les pouvoirs ont failli par certains côtés. Néanmoins, ces pouvoirs-là ont misé sur l'éducation. Si vous avez des foules en ce moment à Alger qui défilent dans le calme et dans la paix, c'est parce qu'elles ont été éduquées. Et ça, c'est Ben Bella, c'est Boumediene, ensuite ce sont les autres, c'est Bouteflika. Ils ont commis des erreurs, mais qui n'en commet pas ? Ils ont commis des erreurs, certes, mais ils ont permis à ce pays d'acquérir ce qui est extrêmement important, le savoir et l'éducation.
Et les malades étaient en mauvais état, si je puis dire ?
Bon, les malades, l'Algérie était pauvre, donc il y avait de la dénutrition, et surtout, la médecine... coûte cher. La médecine coûte cher. Donc, les structures hospitalières, à l'époque, étaient surchargées. Vous savez, après toute guerre, vous avez un boom de natalité. Donc, moi, je me souviens des maternités, ou d'une maternité notamment, c'était à Birtraria, sur les hauteurs d'Alger. C'était apocalyptique. Les femmes étaient à deux sur des matelas, tête bêche, sans drap.
Parce qu'on manquait encore de structure.
Parce qu'on manquait, on manquait de structure, on manquait de médecins et d'argent.
Alors vous êtes un anesthésiste reconnu, chef de service. Quelle est l'éthique qui vous guide dans votre métier de médecin ?
Il y a une phrase, c'est Hippocrate, hein, c'est Hippocrate qui la disait, « Primum non nocere », ne pas nuire. Quand vous êtes médecin... vous avez un pistolet au bout de la main, et avec ce pistolet, soit vous tuez la maladie, soit vous tuez le malade. Donc il faut être extrêmement circonspect et faire très attention à prescrire le bon remède pour la bonne maladie.
Vous êtes aujourd'hui un écrivain prolixe, vous signez tous vos livres avec Michel Canesi, qui est médecin comme vous. J'ai rappelé que j'ai beaucoup aimé Alger sans Mozart et Villa Taylor. Vous en avez écrit d'autres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter des histoires, de devenir écrivain ?
C'était un vieux souhait. J'écrivais quand j'étais gamin, dès 8-9 ans, je lisais beaucoup. Donc j'ai eu envie d'écrire. Mais ce qui nous a donné envie, Michel et moi, d'écrire, c'est un événement, enfin c'est une période de l'histoire sombre, c'est l'apparition du sida. Nous avons eu un ami qui a été atteint de cette terrible maladie avant l'apparition des trithérapies et qui en est mort, mais qui a voulu choisir sa mort et qui a mis en scène sa mort. Il s'est suicidé avec tous ses amis autour. Il a convoqué tous ses amis pour un dîner ultime. Et à un moment, il s'est isolé, il a avalé des médicaments et il est mort. Bon, ça a été extrêmement dur, extrêmement douloureux. Et de cet événement, on a voulu écrire un témoignage. Et ça s'est appelé le syndrome de Lazare, qui d'ailleurs a été mis en scène au cinéma par André Téchiné sous le titre « Les témoins ».
Vous êtes d'origine algérienne. Vous nous avez parlé de la période qui a précédé l'indépendance, puis l'indépendance. Mais vous avez aussi une passion pour le Maroc. On sait que politiquement, les relations sont parfois compliquées entre ces deux pays, même si les deux peuples se considèrent comme frères. Le Maroc, c'est un de vos pays de cœur ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Et moi, j'essaye, avec mes tout petits moyens, de rapprocher ces deux pays. Je ne désespère pas qu'un jour, ils ne se rapprochent. Et on a essayé de le faire au plus haut niveau, puisque... Le président Bouteflika a eu entre les mains Alger sans Mozart, qui l'a beaucoup aimé. Et le roi du Maroc a eu aussi entre les mains Alger sans Mozart, qui l'a beaucoup aimé aussi. Et il a même eu cette phrase extraordinaire sur Alger. Mohamed VI a dit un jour à Michel, « Vous verrez », parce que Michel ne connaissait pas encore Alger. Et il l'a découverte au moment où nous avons publié Alger sans Mozart. Il a dit, « Vous verrez ». Alger, c'est Brigitte Bardot aujourd'hui, sans oublier ce qu'elle a été dans les années 50. Ce qui, pour moi, est une très très belle description d'Alger. C'est vrai. Alger, c'est une très belle femme qui a vieilli et qui a perdu une partie de ses atouts.
Quelle place tient l'amitié dans votre vie ?
Oh, l'amitié, c'est très important. L'amitié, c'est ce qui vous permet de vivre, de tenir dans les coups durs de la vie. C'est capital. Ça fait partie de la théorie des petits bonheurs. Chaque ami est un petit bonheur, lui seul.
Pour terminer, Jamil Rahmani, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Moi, ce que je souhaite, c'est de transmettre ce que j'aime à mes lecteurs et d'être le plus lu possible. Moi, vous savez... Je suis désolé de voir à quel point les regards de l'Occident sont focalisés par l'Orient et de façon négative. Moi, je dis que l'Occident a une large part dans ce qui arrive à l'Orient. Ces ingérences incessantes ont détruit un certain nombre de pays d'Orient, hein, la Syrie, le Yémen, l'Irak. Et en plus, on voudrait détruire ce qui est le ciment de cet Orient, l'islam. Et je dis non. Il faut avoir un autre langage et il faut montrer que les civilisations occidentales, orientales, islamiques sont les mêmes civilisations.
Merci Jamil Rahmani d'avoir été l'invité de Parcours.
Merci beaucoup Loïc Barrière.
C'était Parcours sur Radio Orient.